triple pointu.
Pour commencer notre point géopolitique avec Clarisse, Romane et Élise.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Géopolitique en débat. Vous êtes à l'antenne avec Clarisse, au programme 3 sujets qui font l'actualité internationale et nationale. Pour cela, nous allons répondre aux questions posées par nos chers internautes. Afin d'y parvenir, je suis accompagnée de Romane, Élisée et Lilou. Alors allons-y. D'abord, nous allons nous intéresser à la COP30, la grande conférence mondiale sur le climat. De nombreux enjeux sont au cœur des discussions concernant le changement climatique. Romane, peux-tu répondre à la question posée par Jeanne qui est « Qu'est-ce que la COP30 et quels en sont ses objectifs ?»
Bonjour, merci de m'accueillir dans Géopolitique en débat. Je vais bien évidemment répondre à cette superbe question. En effet, il y a peu de temps, le 21 novembre, s'est déroulée la COP30 à Belém au Brésil. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'est la COP30? La COP30 est la 30e conférence des parties de l'ONU sur les changements climatiques. Les COP servent à évaluer les progrès, à négocier des engagements, coordonner des politiques climatiques et renforcer des objectifs comme ceux de l'accord de Paris. Elle regroupe des acteurs publics et privés de différentes échelles, du local à l'international.
Et comment s'est déroulée la COP30?
Lors de celle-ci, les objectifs étaient d'examiner les progrès réalisés pour limiter le réchauffement climatique. Ils ont également discuté des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La COP a duré 24 heures de plus que prévu, car les participants peinaient à trouver un accord. La conférence s'est terminée avec des accords sur le renforcement du soutien financier aux pays en développement, notamment pour l'adaptation du changement climatique. Cette COP a beaucoup été médiatisée, car les États-Unis n'y sont pas allés malgré que ce soit l'un des pays qui pollue le plus, et l'une des plus grandes puissances mondiales. Par ailleurs, la COP a eu lieu au Brésil, pays dans lequel l'Amazonie est menacée par la déforestation. Aucun engagement contraignant sur la déforestation n'a été inclus dans l'accord final de la COP30. Enfin, certains observateurs ont trouvé l'accord décevant, insuffisamment ambitieux sur la sortie des énergies fossiles, sur les aides financières apportées aux pays en développement ou sur la réduction de gaz à effet de serre.
Merci Romane pour tous ces renseignements. Nous espérons que les objectifs de la COP30 se réalisent réellement. En parlant des États-Unis, un accord récent entre ceux-ci et l'Ukraine dans le contexte de la guerre déclenchée en 2022 a eu lieu. Cet accord pourrait avoir des conséquences importantes sur la situation en Europe et sur les relations internationales. Accueillons Élisée et de nouveau Romane pour répondre aux questions posées par Léopold.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Pouvez-vous nous expliquer le contexte de cet accord?
Alors pour commencer, les relations entre ces deux pays s'inscrivent bien avant 2022. Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, les États-Unis ont progressivement développé des relations diplomatiques, économiques et sécuritaires avec Kiev. Ce rapprochement s'est renforcé après 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, puis après en 2022, avec l'intensification du conflit entre l'Ukraine et la Russie.
Quels sont les principaux éléments de cet accord réalisé?
D'abord, un accord économique a été conclu afin de créer un fonds commun d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce fonds vise à financer de projets économiques à moyen et à long terme, qui s'inscrit pour la continuité de l'aide apportée par les États-Unis depuis 2022. Pour les États-Unis, cet accord permet de structurer leurs engagements économiques et d'encadrer les investissements futurs.
Parallèlement à cet accord, d'autres discussions sont en cours. Romane, peux-tu nous en dire plus?
Effectivement, des négociations portent sur des garanties de sécurité accordées à l'Ukraine. Ces garanties pourraient renforcer la coopération militaire entre les deux pays sans constituer une adhésion formelle de l'Ukraine à l'OTAN. Ces discussions prennent en compte des précédents historiques, notamment le mémorandum de Budapest en 1994, dans lequel des garanties de sécurité avaient été évoquées sans mécanisme contraignant. Par ce mémorandum, 3 ans après son indépendance, l'Ukraine renonçait à son arsenal nucléaire hérité de l'URSS en échange d'un respect de son indépendance et de sa souveraineté par les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, puis rejoint ensuite par la France et la Chine.
Et en 2026, quels sont alors les principaux enjeux et limites de ces accords entre les États-Unis et l'Ukraine, Élisée ?
Ces accords renforcent la coopération bilatérale, mais ils soulèvent des questions liées à la durabilité et à l'engagement américain, et à l'équilibre des relations avec les autres acteurs internationaux. Ils doivent également s'inscrire dans un cadre diplomatique plus large, incluant les relations avec les alliés européens et les négociations liées au conflit en cours.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ces précisions, en espérant avoir répondu à tes questionnements, Léopold. Voilà, c'est la fin de Géopolitique en débat. Merci de nous avoir écoutés sur ces sujets importants dans notre monde actuel. Nous espérons que ces informations vous auront aidé à mieux comprendre les actualités. N'hésitez pas à continuer de vous informer sur le monde qui nous entoure. Merci de votre écoute. Nous vous retrouvons bientôt dans une nouvelle émission.
Vous écoutez le Point Actus sur Radio Charladi. Nous allons maintenant passer aux actualités politiques avec un sujet qui touche directement les élèves, les familles et les enseignants. Les nouvelles propositions sur le rythme scolaire. Sébastien nous demande quels changements pourraient être mis en place et comment ont-ils été proposés. Accueillons Lilou pour nous éclairer sur ce sujet.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces propositions sur les rythmes scolaires. Un sujet qui revient fortement dans les discussions politiques en ce moment, avec la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, réunie cette année pour mieux organiser le temps des enfants, des familles et des enseignants. Cette convention regroupe environ 130 citoyens tirés au sort pour discuter sur les rythmes scolaires. Parmi les propositions concrètes, il y a plusieurs idées qui pourraient vraiment changer le quotidien des élèves français. La convention propose d'abord de faire une semaine complète de 5 jours pleins, du lundi au vendredi, pour tous les niveaux de l'école primaire au lycée. Ensuite, beaucoup de participants suggèrent de commencer les cours à 9h, surtout pour les collégiens et les lycéens, car les spécialistes disent que les adolescents sont naturellement plus alertes plus tard le matin. Ils proposent aussi des cours plus courts, de 45 minutes, pour que l'attention reste plus forte, avec une fin de journée vers 15h30, ce qui laisserait plus de temps pour les activités ou le repos nécessaire à cet âge. La convention réfléchit même à revenir à 2 zones de vacances au lieu de 3 pour que les périodes de congés soient mieux réparties entre les zones, mais ce n'est pas une situation qui fait l'unanimité. Les syndicats d'enseignants estiment que certaines propositions s'éloignent de la réalité du terrain, pas assez financées et pourraient créer des inégalités entre les territoires. Pour les parents, les avis sont différents. Certains trouvent que ces propositions pourraient aider les enfants à être moins stressés et plus concentrés, tandis que d'autres pensent que cela risque de complexifier l'organisation familiale, notamment pour ceux qui travaillent et doivent gérer les horaires de garderie et périscolaire. Du côté des élèves, on entend aussi des voix qui disent que des journées plus adaptées à leur rythme naturel seraient moins épuisantes, mais d'autres répondent que si l'école commence plus tard, cela ne changerait rien car si on passe quand même des heures au périscolaire avant ou après. Ce débat montre que les rythmes scolaires ne sont pas seulement une question d'horaire ou de vacances, mais une vraie réflexion sur comment l'école s'adapte aux besoins des élèves, des familles et du monde du travail. Il illustre bien la complexité des réformes éducatives, chaque solution possède des avantages, mais aussi des limites qui divisent ceux à vivre l'école au quotidien.
Merci beaucoup pour cette réponse très constructive, Lilou. Nous écoutons justement Isor qui prolonge cette réflexion en questionnant la pression scolaire.
C'est maintenant l'heure de notre réflexion sur un phénomène de société. Aujourd'hui, Isor s'interroge sur les jeunes, sont-ils feignants ? Bonjour Isor.
Est-ce que selon vous, les jeunes ne veulent plus travailler ?
C'est totalement vrai, c'est des assistés, donc c'est la réalité.
Ok.
Oui, c'est bien connu, les jeunes ne veulent plus travailler. Puis avec leur IA, la France de nos mains, c'est plus ce que c'est. Hein.
Fait rire avec les lycées bloqués, c'est qu'à chaque fois qu'on donne la parole aux lycéens, tu leur donnes la parole et ils sont là avec leur air ahuri et leur buzz cut là, insupportable.
Ils sont jeunes quoi.
Et ils arrivent même pas à faire une phrase de français sujet verbe complément quoi. Je lui dis mais avant de manifester pour quoi que ce soit, serait peut-être l'heure d'aller apprendre déjà le français et puis peut-être de contribuer d'abord à la société.
Vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui est sur les jeunes par rapport aux études. Parce que bon, ça va 2 minutes de dire que les jeunes sont sous pression, hein, ils sont juste feignants. Bon, en tant qu'étudiante, je suis d'avis à dire que oui, on est sous pression et on n'a pas forcément envie de continuer dans le système français actuel qui est problématique. Pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Depuis petite, on me répète qu'il faut que je trouve un projet pour l'avenir. Mais comment voulez-vous que je sache ce que je veux faire à 10, 11 ans ? Moi, dans ma tête, je m'imagine toujours devenir une princesse dans un beau château avec le prince de mes rêves. Ou encore, faire The Voice et débuter ma carrière de chanteuse en étant la fan number one de Louane et Kenji Girac. À moins que Kenji ne soit mon prince charmant. Enfin bref. Tout ça pour dire que tous les ans, on me répète qu'il faut que je trouve une idée, que mon futur en dépend. Sans compter les réflexions du genre « Fais un métier qui te rapporte de l'argent. Non, ce projet n'est pas fait pour toi. » Ou encore « T'es sûre de toi ?» Enfin bref, vous voyez le genre. Le résultat ? Ben, je bloque. Impossible de me décider. Et rien que d'y penser me fout la frousse. Puis je me parle pas de la charge du travail. Et là, je vous entends déjà dire « Oh là là, ben elle est pas prête à rentrer dans le monde du travail, celle-là. » Ben moi, je suis là pour dénoncer des faits et dire que oui, on est sous pression, mais surtout, on veut du changement. Parce que oui, commencer à 8 heures tous les jours et terminer à 17, 18 heures, c'est fatigant. Puis après, il y a les devoirs tous les soirs, puis les évaluations à préparer, les examens blancs, puis les examens officiels, les livres à lire, le trajet, matin et soir, puis bien faire attention que nos spécialités soient à une bonne moyenne, car force à toi, si ta spécialité QF 45 est à 10 de moyenne. Bon, j'exagère un peu. Mais vous comprenez bien qu'on est jeune et que c'est pas toujours facile, d'autant plus qu'on vit dans un environnement assez stressant avec l'actualité. Pour cela, j'ai donc interrogé deux camarades afin d'avoir leur point de vue sur le sujet.
Est-ce que tu ressens une quelconque pression en tant qu'étudiante ?
Oui, beaucoup de pression au vu des examens qui nous attendent. Et en fait, ça fait tellement de pression que dès le début, en fait, c'est comme si tu avais un peu abandonné et que tu subis juste ce qui t'arrive.
Après, on a aussi beaucoup de pression, je trouve, qui est... vis-à-vis de nos profs, je trouve qu'en fait ils mettent quand même énormément de pression. On rappelle toujours cet examen et en plus, faut finir le programme, faut toujours être à fond. Et mine de rien, en fait, on nous dit que c'est quand même important d'avoir des bonnes notes, c'est quand même important de bien suivre le cours, de faire correctement les exercices, de faire tout en fait tout correctement.
Les mauvaises notes, les mauvaises appréciations et tout, ça. Ça plombe le moral et tu peux rien y faire à part essayer d'avancer.
Et des fois, c'est un peu compliqué. On n'a aussi pas beaucoup de temps. En plus, là, en tant qu'interne, on n'a pas forcément beaucoup de temps extra-scolaire, justement, donc pour se détendre. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on ressent beaucoup plus cette pression quand on a les examens qui arrivent.
Ce qui déplaît aussi, c'est le fait que la Gen Z ose se plaindre et dénoncer le système français. De ce fait, on nous dit qu'on ne veut plus travailler, qu'on n'est plus motivé, alors qu'on veut juste du changement, comme je l'ai dit. Et là, je vous entends encore une fois dire « Oh là là, on a vécu la même chose et on n'en est pas mort, hein !» Certes, mais cela ne veut pas dire que nous voulons reproduire le même schéma. De plus, beaucoup disent que les jeunes ne veulent plus travailler. Mais saviez-vous que les jeunes ont du mal à trouver un emploi ? Soit car ils sont trop jeunes, soit car ils n'ont pas d'expérience, mais aussi parce que beaucoup sont tout simplement mal accompagnés.
Entre 20 et 21... qui va avoir 21 ans en août, pareil, il se sent pas orienté, il a abandonné l'année du bac ils sont moins autonomes qu'avant. Je trouve qu'ils ont beaucoup besoin d'être accompagnés, soit avec une mise en situation professionnelle ou des stages très courts, mais rester dans la théorie au lycée, c'est très compliqué pour eux.
Oui, donc c'est pas un problème de motivation en fait pour vous, hein. C'est plus un problème de
accompagnement.
On les aide pas assez.
On les aide pas assez d'orientation.
Ouais, c'est ça le souci selon vous. Et une fois qu'ils sont même au boulot, on les valorise pas assez ?
Non. Pas du tout. Et surtout quand ils viennent de quartiers politiques de la ville ou quartiers difficiles. Moi, je m'en souviens, il y a même 30 ans.
On nous reproche des choses, mais en parallèle, personne n'essaye de nous aider. C'est pas facile de trouver nos projets pour la vie. Et c'est pas non plus facile d'étudier sans avoir de crainte. Mesdames, messieurs, entre vous et moi, nous pouvons admettre que c'est bien plus facile de mal parler de la jeunesse que d'accepter du changement et d'accepter d'entendre que nous sommes fatigués ou bien qu'on en a marre. Alors évidemment, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ras la casquette d'entendre ces feignants se plaindre et aller au boulot. C'est vrai qu'avec la montée des réseaux sociaux, on prend plus la liberté d'exprimer notre opinion. Et il est vrai aussi que certains ne font pas d'efforts et ne le veulent pas travailler. C'est un fait. Mais n'en faites pas une généralité, car on en est bien loin. Alors mesdames, messieurs, nous ne vous demandons pas la lune, mais de l'écoute et de la compréhension. Oui, nous voulons une baisse de charge de travail. Oui, nous voulons travailler dans de meilleures conditions, que ce soit en cours ou au travail. Et oui, nous avons décidé que nous voulons un futur où nous nous sentons libres et non d'un futur où nous travaillons pour survivre et travailler 30-40 ans dans une même entreprise.
C'est juste une question d'époque, en fait. À l'époque, on travaillait très jeune parce qu'il fallait travailler. Maintenant, c'est plus libre, il y a plus d'opportunités, on change beaucoup plus de métiers. C'est pas mieux qu'avant, c'est différent.
D'avoir évoqué la pression scolaire, les horaires chargés du lycée français. Vous êtes toujours dans le point actu avec Lily. Nous vous proposons un retour théâtralisé sur les 10 ans des attentats du 13 novembre 2025 et plus largement sur les manifestations internationales de soutien aux victimes de terrorisme.
Tu faisais quoi le 13 novembre 2015 ?
Je sais plus, moi. C'était il y a longtemps, j'ai dormi entre-temps.
Tu sais que pour certaines personnes, c'est le jour le plus traumatisant de leur vie.
Ah bon, mais pourquoi ?
Mais t'es un culte ou quoi ? Le Bataclan ?
Le Bataclan ? C'est quoi ça ? C'est un concert qui était nul ?
Non, mais t'es sérieuse ?
Mais explique-moi alors, j'en sais rien !
Le 13 novembre 2015, il y a eu le match de foot amical Paris-Allemagne. Tu t'en souviens ?
Non, pas vraiment.
Durant ce match, le Stade de France, une salle de concert et les bars aux alentours ont été pris d'assaut par des terroristes islamistes. Les terroristes ont fusillé et pris en otage les personnes qui se trouvaient dans ces lieux. Cet événement a créé une panique dans la capitale. Cet attentat a fait plus de 130 morts et de nombreux blessés. Ce qui devait être une soirée heureuse s'est transformé en une soirée d'horreur.
Ah oui, c'est vrai, on se souvient.
Maintenant que je t'ai rafraîchi la mémoire, je vais te prouver que face au terrorisme, certains pays restent unis dans les moments de souffrance.
Unis ? Mais ils sont toujours en compétition.
Peut-être que leurs compétitions à la quête du pouvoir sont permanentes, mais de nombreux pays réussissent à mettre leurs désaccords de côté. Ils s'unissent et apportent leur soutien aux pays touchés.
Bah alors là, prouve-moi ça.
Le 13 novembre 2025, pour la commémoration des 10 ans du Bataclan, de nombreux pays comme les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie, le Brésil ont projeté les couleurs du drapeau français sur leurs monuments. Grâce à cette action, ces pays ont montré leur soutien à la France. Ce sont des petites actions, mais cela montre leur solidarité malgré leurs différends.
Waouh, mais j'étais pas au courant de ça!
Est-ce que tu savais que 4 jours après le Bataclan, s'est déroulé un match de foot France-Angleterre à Wembley?
Bah non, je savais pas du tout!
Bah, durant ce match, le peuple anglais a montré son soutien à la France en faisant une minute de silence. Les Anglais ont aussi chanté la Marseillaise. Tu penses que c'est un geste courant, mais pas du tout, c'est une vraie preuve de solidarité. Et pour couronner le tout, il y avait de nombreux drapeaux français. Les médias et l'équipe de France ont remercié publiquement les supporters anglais pour cet acte de solidarité.
Waouh, c'est vraiment incroyable de leur part, surtout quand on sait qu'ils sont rivaux.
C'est vrai, il y a toujours eu des petites rivalités entre ces deux pays, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne se soutiennent pas dans les difficultés.
C'est beau de voir les pays toujours aussi solidaires entre eux. Mais dis-moi, la France, elle a aussi montré son soutien à l'Angleterre ?
Bien évidemment. Le 22 mai 2017, durant le concert d'Ariana Grande, qui s'est déroulé à Manchester, un groupe de terroristes a attaqué et fusillé la salle de concert, faisant de nombreux blessés et morts. Ça ne te rappelle pas un événement ?
Mince, le Bataclan.
C'est exact. Et tu ne sais pas quoi ? Quelques semaines après cette attaque, il y a eu un match de foot amical France-Angleterre. Pour montrer leur soutien, les Français ont fait une minute de silence en hommage aux nombreuses victimes. Ensuite, la garde républicaine française a joué la musique « Don't look back in anger » du groupe anglais Oasis, ce qui a produit un effet de surprise au peuple anglais, qui était ému devant le soutien de la France.
Waouh, c'est vraiment incroyable. Ils sont toujours aussi unis, même dans la difficulté.
Oui, de nombreux pays restent unis et montrent leur soutien aux autres. Le soutien permet de consolider l'unité. Plus les pays sont soudés, plus ils sont puissants. Dans le passé, l'unité a permis de s'en sortir. Les pays ont réussi grâce à l'entraide à se sortir de nombreuses guerres. Si dans le futur des conflits apparaissent, j'espère qu'ils resteront aussi soudés, car c'est dans l'unité qu'on fait la force. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Merci Lily pour cette réflexion sur la coopération entre États suite à des actes terroristes. Vous êtes toujours dans le point actu de Radio Charladi et pour terminer notre émission, Jeanne, Isor et Emma vous proposent quelques suggestions culturelles.
You've seen Charles Hadi.
Charles Hadi, en direct du lycée Lebrun à Coutances.
Sur 87.7 et sur zonedonde.org.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit moment culture où nous allons parler du Chili. Peut-être avez-vous déjà connaissance de l'histoire de ce pays et surtout du régime autoritaire qu'il connut pendant 12 ans. Mais saviez-vous que ce renversement de la démocratie, qui semblait pourtant bel et bien ancré, n'aurait pas été permis sans le petit coup de pouce d'un de ses pays voisins? Et oui, je parle bien des États-Unis, et rien à voir avec la capture d'un président pourtant. C'est l'anatomie d'un véritable coup d'État que nous propose le sociologue Gilles Bataillon dans le journal L'Histoire. Il nous raconte comment le président chilien Allende se suicide après avoir été renversé et comment un régime militaire implacable voit le jour ce 11 septembre 1973. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est que l'on découvre le rôle insoupçonné et pourtant majeur des États-Unis dans cette rupture. Et c'est ce que Gilles Bataillon parvient très bien à mettre en lumière à travers cet article captivant. Un scénario horrifiant, survenu pourtant dans l'un des pays considérés alors comme l'un des plus démocratiques de l'Amérique latine. Une lecture qui peut aussi nous éclairer aujourd'hui, où l'on se rend compte que la démocratie doit être défendue, où l'on se rend compte que des présidents américains ne cachent pas leur volonté expansionniste et où ils n'hésitent pas à violer les droits internationaux. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce putsch chilien de 1973, je vous invite à découvrir par vous-même cet article de Gilles Bataillon intitulé « Chili, 1973, anatomie d'un coup d'État » paru dans le journal L'Histoire, numéro 391.
Merci Emma. Bonjour à tous, c'est Jeanne, j'espère que vous vous portez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'ouvrage « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. C'est un essai philosophique qui mêle histoire, actualité, géopolitique et émotion. Personnellement, je l'ai adoré et dévoré. C'est un livre très court que tout le monde est capable de comprendre et surtout d'aimer. Ce qui m'a marqué dans ce livre est le fait que Stéphane Hessel, un octogénaire, arrive à écrire quelque chose qui me parle à moi, une jeune fille de 16 ans. Ce qui nous montre vraiment le génie de cet auteur. J'ai aussi aimé le fait qu'il prône une révolution douce et très diplomatique. Cette mentalité lui vient sûrement de son passé très complexe qui a commencé assez tragiquement, car il a été déporté pendant la Shoah, mais a vite pris sa revanche car il a aussi été secrétaire de la commission à l'ONU, ayant élaboré la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans cet ouvrage, cette idée d'indignation se présente sous plusieurs cas de figure, comme la Shoah, la politique du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou encore la guerre israélo-palestinienne, sur laquelle il a un avis très nuancé. Il nous dit certes qu'il aime Israël, mais que ce n'est pas pour autant qu'il la soutient. Pour lui, il voudrait qu'Israël soit un pays dont il peut être fier, soit un État transparent et démocratique. J'ai trouvé ce passage du livre très intéressant, connaissant ses origines juives. En tout cas, je vous conseille vivement de lire ce livre. Il permet de s'ouvrir l'esprit sur plein de sujets très complexes et il est aussi adapté à tous les publics. Je pourrais très bien le conseiller à mon frère de 14 ans comme à ma grand-mère de 75 ans. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci Jeanne. Quant à moi, c'est Isor et je vais vous présenter Celui qui revient de Han Kang. C'est une écrivaine et poétesse sud-coréenne et ce livre a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature en 2024. Ce livre se porte sur le soulèvement de la population, notamment des étudiants contre le gouvernement en 1980. Le gouvernement est une dictature qui a été mise en place par Chun Doo-hwan après l'assassinat du président Park Chung-hee en 1979, sud-coréen. Dans ce document, on touche plusieurs aspects, plusieurs thèmes, comme la difficulté de vivre à cette époque comme des jeunes de notre âge, 16-17 ans, donc on peut s'identifier à eux. On touche aussi le thème de la mort sous différents aspects, que ce soit physique, psychologique, spirituel. Et ce qui est assez surprenant dans ce livre, c'est qu'il est séparé en six parties différentes, avec à chaque fois les parties sont sur des personnages tous différents qui ont tous un lien plus ou moins éloigné. C'est un livre historique avec une touche de fiction et inspiré donc de la réalité et d'un personnage notamment qui a réellement vécu. Donc c'est une sorte d'hommage aussi par l'auteur. Et voilà, je vous invite à lire ce livre. Tout le monde peut le lire, sauf, je dirais, quand même les enfants. C'est quand même un peu violent et dur à lire à certains moments. Mais c'est très intéressant et c'est très touchant.
Charles a dit.
Si Charles le dit, soyez tranquille, c'est vérifié.
Sur 87.7 FM
et sur zonedonde.org.
Charlie
Charles a dit, en direct du lycée Lebrun à Coutances.
Le 2 et 3 février,
de 10h à 16h.